Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence aux joueurs, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Cloudpunk, de Gears Tactics et on finira par le petit jeu importé de l'Apple Arcade, Stella. Oui, c'est un programme plus léger, mais je me refuse dorénavant à parler, à évoquer la durée de ce podcast avant la fin. Hein, voilà, comme ça sera plus simple. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Marius Chapuis. Salut Marius.
Salut Erwan.
Et Patrick Elio. Salut Patrick.
Salut Erwan.
Ouais, il faut quand même préciser pour la petite histoire que je viens de rater un début d'émission, hein, mais bah, ça va, je m'en suis rendu compte au bout de deux minutes que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, ce qui rappellera des bons souvenirs.
Un détail.
À nos plus fidèles des auditeurs. Bref, comment ça va Patrick, à quelques jours du déconfinement officiel?
Ce déconfinement officiel du 11 mai, non, moi le 11 mai, il est pas raturé en gros dans mon calendrier du tout. Non, mais moi je suis toujours dans mes célèbres marottes, tu sais, je j'ouvre plein de cartons de vieilles consoles. Et puis j'ai pas mal sombré, j'ai ressombré dans des jeux de zombies en monde ouvert. Voilà, c'est un peu mon échappatoire du moment. Je me suis remis à Dead Island que j'aime beaucoup, hein, wow. Un vieux classique qui date un petit peu. D'ailleurs, il y a quelques soucis visiblement chez les développeurs là qui bossent sur Dying Light. A priori, ça n'a pas l'air de très bien se passer sur Dying Light 2, je vais y arriver. Ouais. Et je me suis pas mal replongé aussi dans State of Decay 2, qui a pas mal évolué depuis le lancement il y a plus d'un an et demi, je crois, maintenant. Tu sais, un jeu de gestion, monde ouvert, zombie, où tu crées tes poches comme ça de survivants et tu as tes bases. Et, c'est un jeu, voilà, je trouve, qui a bien, bien gagné sur le temps. Et voilà, je replonge dans ces univers tout colorés, tout mignons pour me changer les idées en ce moment. Voilà.
Et toi, Marius, comment ça se passe?
Tant qu'Internet tient, c'est bon. Non, semaine bizarre de boulot où j'ai enchaîné les séries un peu nulles. Donc, forcément, le moral s'en ressent. Mais heureusement, il y avait Gears Tactics.
Eh bien oui.
Heureusement.
Et on va en parler. Je suis toujours pas arrivé au bout de Assassin's Creed Odyssey, moi. C'est.
Ouais. C'est long, hein.
Ouais, c'est long. Et en fait, ça va, ça tient. Il y a des nouveaux trucs un peu what the fuck. Plus ça avance. Voilà, j'ai le moment où tu croises Platon gamin. Moi, j'avoue que j'ai été
les guests.
Ça m'a fait ouais. Et Pythagore quoi. Non mais Pythagore, ça va. Non, enfin il y a des choses étranges.
Et t'as vu les créatures fantastiques ou pas?
Ouais, j'ai commencé à en voir. Ouais. Non, franchement, c'est un bon kiff. C'est cool. Je m'éclate bien. Parc d'attraction, comme tu l'avais si bien dit. Qu'est-ce que quoi? Ah ben on va commencer. Bah oui, il y a pas mal d'actualités. On va commencer avec qui? Avec toi, Marius, avec des nouvelles d'Electronic Arts.
Ouais, c'est la saison des résultats financiers et Electronic Arts a été un des premiers à dégainer son exercice passé. Ça permet toujours de se faire une idée sur les trucs qui sont à venir, puisque pour les actionnaires, ils détaillent le programme des mois à venir. Comme d'habitude, il y a beaucoup de sport qui est attendu. Et quelques remasters, certains qui étaient connus comme le Command & Conquer ou Burnout Paradise sur Switch. Ouais. Et une grosse rumeur affirmée avec tellement d'aplomb par VentureBeat que ça semble presque crédible, d'un remaster de Mass Effect. C'est quand même une perspective.
De la trilogie.
Alors, c'est pas clair.
C'est pas clair.
De toute façon, on est dans l'ordre du truc non confirmé, donc c'est difficile de trancher. Mais franchement, si c'est juste le premier Mass Effect, ça me va très bien parce qu'il est formidable. Et si c'est la trilogie, c'est encore mieux. parce que les trois jeux sont quand même très différents. Le premier était très RPG, les autres plus action et plus narratif, ouais, quelque part. Mmh. Donc c'est assez excitant. Et sinon, plus sur le côté résultat, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qu'en disaient les rédactions. Et c'est marrant de voir que du côté du Figaro, qui reprenait les déclarations d'une agence financière, on relevait surtout que le cours de l'action d'Electronic Arts chutait après l'annonce des résultats, parce que leur prévision pour 2020-2021 semblait trop conservatrice, ce qui est quand même dingue. Ouais. Alors qu'ailleurs, on notait plutôt une très bonne année pour EA, avec un Madden qui a cartonné, le tourbillon d'Apex, le Star Wars qui était solide aussi. Et il y avait juste Gamekult qui faisait une petite analyse un peu plus poussée, en notant que les bénéfices nets du groupe ont littéralement explosé, en passant de 940 millions à 2,8 milliards. 2,8 milliards, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais que ce n'était pas lié aux jeux vidéo, mais à un joli petit processus d'optimisation fiscale qui avait été mené un peu plus tôt.
Optimisation sinon, fiscale, oui, étant un euphémisme pour grosse pour saloperie, ouais, financière. Hein. On est voilà.
Merci à la Suisse. Si, et dans le détail, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on est proche de la bascule en 50-50 sur les jeux boîtes et le numérique. Avec le détail des jeux boîtes, ça donne 143 millions d'euros. Les téléchargements, c'est 118 millions, donc on n'est pas très loin. En revanche, je ne mesurais pas du tout, moi, le poids de tout ce qui est DLC, micro-transactions et abonnements, qui sont à 655 millions. C'est quand même beaucoup, beaucoup, ah
ouais,
plus.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et c'est impressionnant de voir que, ouais, la bascule vers le numérique était déjà en très, très bonne voie, et avec le confinement...
Mais c'est, et en plus, il y a mais pas mal de microtransactions dans ces jeux de sport, non? Dans les FIFA, ouais, dans les,
ouais,
dans les modes My Team, hein, et dans les trucs comme ça, il y a pas mal.
Très longtemps.
Ah, ouais. Toutes les histoires de lootbox, ils étaient directement visés. Ouais.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est clair. Puis, certains disent même que ça, c'est en train de préparer la nouvelle génération de consoles. On sait qu'on est sur un tournant qui se profile. Et c'est vrai que les habitudes là, qui vont avoir été prises par les joueurs, les acheteurs de jeux, d'aller souvent vers le dématérialisé, c'est un pli qui risque d'être gardé, conservé sur la next-gen, même si voilà, on reviendra à une situation, espérons-le, assez vite plus classique d'achat de jeux physiques, plus facile à faire sans passer par des moyens de commande, etc. C'est un pli d'usage qui risque de rester. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un phénomène qui va accélérer, comme on le voit avec Netflix et avec d'autres usages dématérialisés, hein, de vidéo streaming, etc. Le jeu vidéo, ça va être aussi une bascule et qui prépare a priori l'arrivée de la next génération qui va vraiment qui va commencer avec ça, en fait, avec cette situation où le démat est plus important que jamais, quoi. Parce que on savait que c'était une logique, mais en tout cas, il y a eu un coup d'accélérateur, je pense, avec la situation actuelle.
Ouais, ce qui sauve la filière aussi, hein. C'est ce qui sauve la filière aussi aujourd'hui.
Ouais. Ah, bien sûr. Puis c'est bien sûr. Puis il faut privilégier ces temps-ci. Il faut privilégier évidemment le dématérialisé. C'est évident, bien sûr. C'est une évidence.
D'autres résultats aussi, Patrick, du côté de Nintendo, entre autres.
Oui, on a eu quelques chiffres qui sont tombés, hein, avec on savait que c'était un des phénomènes du confinement, c'est le fameux Animal Crossing, ouais, New Horizons, qui a fait pas loin de 12 millions de ventes en 11 jours. Hein, c'est dans ces eaux-là, c'est un des meilleurs, voire le meilleur démarrage jamais enregistré pour un jeu Switch, qui évidemment est sorti, on en a parlé il y a quelques semaines, dans des circonstances très particulières, et ça en a fait un vrai phénomène sur les réseaux sociaux, de partage. Il est vraiment tombé au moment où il fallait. Ce jeu, il a eu une sorte d'alignement des planètes. Alors, ce n'est pas forcément de bonnes planètes, mais il est arrivé au moment où il fallait. Et un carton assez remarquable. Et puis, qui nous amène, Nintendo en a profité pour rappeler qu'ils avaient écoulé plus de 55 millions de Switch, ouais, et plus de 350 millions de jeux. Et puis, pour rappeler quand même un petit peu le précédent de la Wii U, qui elle était à 13 millions d'unités vendues et 103 millions de jeux, ça redonne un petit peu un ordre de grandeur de l'effet Switch qui cartonne, qui est en flux tendu en termes de stock en général un peu partout dans le monde. Hein, elle est toujours difficile à trouver sur certains territoires. Donc voilà, un succès qui ne se dément pas, qui tient sur la durée. Sont les chiffres Switch classique et Switch Lite, hein, la version révisée. Encore et toujours des rumeurs sur une nouvelle Switch qui devrait arriver ces temps-ci, mais pour l'instant, il n'y a même pas d'urgence. On voit que la Switch classique se vend toujours très bien et Nintendo a bien renoué avec l'effet Wii originel de l'époque, hein, en termes de vente. Donc,
non, c'est clair. Ouais, juste c'est vrai pour élément de comparaison que j'ai trouvé quand même super intéressant, c'est que Animal Crossing, en 10 jours de commercialisation, a quasiment égalé les ventes totales des précédents épisodes. Donc,
parce que situation exceptionnelle entre guillemets, entre la Switch qui est très bien installée très vite et puis les circonstances qu'on connaît tous ces dernières semaines. Donc c'est vrai que c'est un vrai phénomène et on le voit, c'est un phénomène de vente, c'est un phénomène de jeux vidéo, c'est un vrai phénomène, j'ai envie de dire même de société.
Enfin, réseaux sociaux, hein.
Ouais, c'est clairement un vrai phénomène,
c'est
ce jeu
sur Twitter en permanence. Forcément, ça fait un effet compresseur, quoi.
Ouais. C'est assez impressionnant. C'est vrai que
n'ayant pas persévéré plus que ça, je suis assez, on va dire, dubitatif sur toutes les discussions sur le cours du navet, que j'ai un peu de mal à. Ça a l'air très important. Pour beaucoup de monde, mais j'ai un peu de mal à percevoir le truc, mais bon, c'est.
Moi j'ai loupé l'effet. Enfin, j'ai pas suivi le train du jeu du confinement de cette année. Moi, c'est Deadly Premonition, mon jeu de confinement. C'est un choix très personnel, que j'assume totalement. Et alors, je sais pas si je le découvrirai après ce jeu Animal Crossing, parce que je pense qu'il fallait vraiment. On en avait déjà parlé. Je pense qu'il fallait le découvrir dans cette période. Voilà, je pense que
en même temps que tout le monde, ouais. Il y a peut-être un côté collectif aussi, un côté de partage d'expérience au fur et à mesure. Ici, vu que tout le monde a vachement avancé et a avancé en même temps, c'est vrai que tout le monde est à comparer comme ça les topographies des îles, les décors, la qualité de décorateurs d'îles. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté expérience collective qui est assez intéressant là-dessus.
Mais avec le temps, j'ai complètement lâché, moi, mais avec le temps, m'apparaît de plus en plus le défaut de ce réglage du joueur 1 qui conditionne la progression des autres joueurs sur la même île. Et le fait que je ne joue pas bloque les autres qui jouent sur ma partie.
Ah, c'est bizarre. De façon c'est pas rectifiable.
Assez ridicule, quoi.
Non.
Tu penses pas que ce soit rectifiable que...
Non, pour l'instant, je ne crois pas.
Ouais, c'est pas
normal. Moi, j'ai complètement lâché parce que j'ai pas le temps, mais je trouve ça quand même complètement dingue de bloquer les autres parce que.
Ouais, c'est étrange.
Ouais, cette histoire d'une seule île par console est assez incompréhensible en fait. Parce que ça peut pas.
Mais surtout qu'il suffirait de transférer la dictature de l'île d'un joueur à l'autre, quoi.
Oui, de passer c'est le pas relais, de dire tu prends les manettes, en fait, tu prends le leadership, le commandement et tu. Ouais,
c'est étrange. Ouais. D'autres résultats aussi du côté de Fortnite, Patrick.
Eh ben oui, juste un chiffre qui est passé, que j'ai vu passer hier. J'ai même tiqué en le lisant. 350 millions de joueurs enregistrés depuis septembre 2017. 350 millions de joueurs. C'est un chiffre, mais c'est vrai qu'il faut se représenter quand même le volume de ce que ça représente. 350 millions de joueurs enregistrés. Ils ne sont pas tous actifs, ce sont des comptes enregistrés. Mais
quand même 100 millions de plus, 100 millions de plus que.
En un an.
En un an.
C'est ce qui confirme quand même une tendance qui tient la route et qui, encore une fois, je pense que les circonstances très particulières des dernières semaines ont aussi, je pense, contribué à galvaniser l'effet du jeu d'Epic, quoi. Enfin, c'est partie de ces services et de ces jeux qui ont complètement profité du contexte et qui. Et en tout cas, c'est un vrai phénomène. 350 millions de joueurs, enfin, c'est vraiment un vrai phénomène.
À titre de comparaison, 350 millions de joueurs, c'est quasiment l'équivalent de la population américaine.
Oui, c'est... il y a un pays. En fait, c'est un pays. Hein. Ça pourrait être un pays géographique. Fortnite, on pourrait représenter sur la carte un pays entier. C'est bon, voilà. C'est...
Et pour ceux qui pensaient Fortnite une mode du passé, il faut voir que maintenant ils font un peu dans l'événementiel plus plus. Hein. Il faut Le mois dernier, c'était le concert Astronomical de Travis Scott qui a eu lieu dans le jeu. Ça a été le record de fréquentation de Fortnite, ce concert. 12,3 millions de joueurs connectés simultanément à Fortnite. 12,3 millions de joueurs connectés simultanément. Sur la durée totale, 27,7 millions de joueurs uniques sur la durée totale du concert. C'est des chiffres, mais c'est lunaire. Et là, pour fêter, ou je sais pas si c'est pour fêter ou si c'est une coïncidence, mais pour fêter les 350 millions de comptes, là, ils organisent la fête royale en présence de, alors j'ai les noms, mais des DJ Dylan Francis, Steve Aoki et Deadmau5. Ils vont enchaîner des sessions sur la scène principale et c'est samedi, là, on enregistre le jeudi, donc c'est samedi 9 mai à 3h du matin, heure française, pour dire, enfin voilà, que il y a toujours aussi cette rumeur sur Fortnite, est-il pas en train de se plateformiser? C'est-à-dire, on était sur un jeu, est-ce qu'on va vers une plateforme, c'est-à-dire une plateforme de concerts, d'événementiels, réseaux sociaux, etc. On sait que Epic Games répond à ça, pour l'instant c'est un jeu. On en reparle à la fin de l'année.
Quand on sera au milliard, quand on sera au milliard de joueurs.
Non, mais c'est ça. Il y a un moment.
Vous avez suivi ces trucs de concert ou pas? Vous avez suivi ces trucs de concert? Comment ça se passe?
J'ai pas suivi.
Techniquement, tu joues et t'as le concert en fond ou tu poses ta manette, t'as juste ton avatar qui regarde le truc.
Je pense que t'as juste, enfin, t'as le choix en fait. Je crois que tu peux faire des choses, tu peux utiliser ton delta plane, etc. Après, je pense pas que tu aies de partie en même temps que le concert. Je ne sais pas, j'y étais pas, mais c'est pour dire que le niveau d'événementiel qui se déroule là-dedans est assez fou.
C'est fascinant, je trouve, que ce soit Fortnite ou que ce soit Animal Crossing, qui sont complètement différents, mais ce sont des jeux qui ont cette capacité à capter le monde, tu vois, à être des reflets aussi de tendances, de se faire se rencontrer les gens. Enfin, je trouve que c'est chouette. Ce phénomène, ouais. Je trouve que c'est quelque chose, notamment en ce moment, enfin, ce sont des jeux qui sont importants pour ça, je trouve, des reflets de l'époque.
Non, et
des vrais phénomènes, des phénomènes qui transcendent.
Pour ne pas passer à côté quand même de la nouvelle de la semaine, hein, c'est évidemment le partenariat annoncé entre 2K Games et HB Studios. Qui vont publier là pour les semaines à venir, ça va arriver tout de suite, je crois dans une semaine, je crois que c'est le 15 ou quelque chose dans le genre, PGA Tour 2K21, le jeu de golf, le jeu de golf 2K, donc qui va être une évolution parce que HB Studio avait sorti en partenariat déjà avec 2K Games, mais il y avait pas le petit macaron 2K, ça s'appelait The Golf Club 2019, c'était sorti durant l'été 2018. Et donc là c'est PGA Tour 2K21, sachant que évidemment la licence PGA a été pendant très très longtemps propriété de EA avec Tiger Woods PGA Tour. Donc là on attend voilà le premier jeu de golf officiellement estampillé 2K. Donc on vous en reparlera. Enfin je vous en reparlerai. Enfin je sais pas si allez vous m'accompagnerez quand même sur le
Je vous reparlerai aussi très prochainement des extensions de Doom parce qu'il y a une extension qui va arriver de Doom Eternal, ça a été confirmé. Alors a priori, je vous avais parlé il y a quelques jours, quelques semaines de cette brouille entre Mick Gordon, le musicien attitré de la série depuis le Revival et puis de quelques jeux Wolfenstein, la brouille entre lui et id Software, ça se passait pas bien, on espérait que ça allait se décanter et puis que tout le monde allait serrer la main et repartir pour la suite, et ben non, ça s'est pas résolu du tout. On rentre même dans des justifications par id Software sur ce qui se passe. On a eu quelques détails sur des histoires. On se renvoie à la patate chaude, en fait. Hein. Ouais. On rappelle, Mick Gordon avait rebondi sur le mécontentement de joueurs qui avaient eu accès à l'OST du jeu. Les joueurs n'étaient pas contents de la qualité des fichiers son, ce qui peut se comprendre hein, quand on parle d'une édition collector qui devait offrir ce contenu en plus. Lui avait expliqué que les fichiers en question avaient été repris, n'avaient pas été remasterisés par lui et manquaient de polish et de retravail derrière. Donc là, on explique du côté de id Software, bah, que finalement c'était dû à un retard dans les rendus de Mic. Mic avait rendu visiblement trop tard ses fichiers son, et que du coup l'ingénieur son chez id Software, donc Chad Mossholder, avait dû reprendre, se servir dans des morceaux pré-mixés pour du in-game, pour du jeu, afin de composer cette OST. Donc finalement, voilà, on part là-dedans. Donc on se renvoie à la patate chaude. C'est finalement Mick Gordot qui était en retard sur les rendus. L'ambiance n'est pas très bonne, visiblement, entre les deux parties. Et puis Marty Stratton, qui est le responsable, le producteur de Doom Eternal, a carrément lâché sur un texte sur Reddit que le DLC solo qui est actuellement en production se ferait sans lui, et que bon, pour l'instant il ne retravaille pas avec Mick Gordon dans le futur. Voilà, donc voilà, c'est un divorce en bonne et due forme, et c'est dommage parce que j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que la bande son de Doom et de Doom Eternal était vraiment une composante très 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 marquante, hein, de ce revival de Doom, notamment sur Eternal. Je crois qu'elle était magnifique, cette bande son. Donc voilà, en tout cas, il y aura pas Mick Gordon sur le DLC, et a priori pas sur les prochaines productions id Software. C'est un peu dommage.
Ouais.
Allez, je finis sur une autre news en provenance de Mortal Kombat, une autre de mes marottes, hein, des années 90. Mortal Kombat, on se rappelle de Mortal Kombat 11. Je vous en ai régulièrement reparlé parce que c'est vrai qu'il y a eu des extensions dans tous les sens. On avait eu Terminator avec ce featuring d'Arnold Schwarzenegger, extrait de Dark Fate, le dernier Terminator qui n'existe pas, hein, qu'on essaie d'oublier. Mais bon, ouais, bref, on avait quand même le personnage de Terminator qui était apparu dans le jeu, donc ça c'était chouette. On a eu plusieurs extensions, et là donc on a eu l'annonce par le studio d'une grosse extension qui arrive, qui va s'appeler MK Aftermath, qui arrive fin mai. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des personnages assez connus. On a Shiva qui était apparu dans MK3, si je ne dis pas de bêtises, et surtout Robocop lui-même, le vrai Robocop, l'original de 87, avec la voix, excusez du peu, de Peter Weller himself, donc l'acteur original de Robocop, c'est pas rien. Donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on va certainement pouvoir faire des combats Robocop contre Terminator. C'est une sorte de fantasme de geek depuis toujours. Il y avait eu des comics là-dessus, il y a eu un jeu Mega Drive et tout ça. Enfin, c'est Robocop contre Terminator, c'est culte. On va voir ce que donne le personnage in-game, parce que Robocop, il a quand même, on va dire, une physique très particulière. C'est pas forcément un foudre de guerre, donc on verra ce que ça donnera. On va voir. Donc c'est une grosse extension, hein, Aftermath. On va avoir une extension narrative avec du scénario au plus. Ça, c'est toujours du bonheur, hein, d'avoir des sections de cinématiques additionnelles. La mauvaise nouvelle, c'est le prix quand même, qui est assez élevé. On parle d'une extension à 40 euros. 40 euros, c'est pas donné. Je trouve que ça pique un petit peu, donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de contenu.
Season Pass ou un truc
Je ne suis pas sûr que ça s'intègre dans le Season Pass d'origine, je ne suis pas sûr, parce que c'est vraiment une extension à part. MK11, indispensable pour y jouer, donc on en reparlera de toute façon, quand ça arrivera, on en reparlera, parce que moi je vais me jeter dessus, évidemment. En tout cas, il y aura aussi une mise à jour gratuite pour le MK11 d'origine, avec des arènes supplémentaires, et puis le retour des Friendships. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Friendships, c'était qu'on foutait vraiment la honte à l'adversaire en lui faisant un petit truc marrant. En tout cas, chapeau MK, parce que bon, là c'est payant, mais j'ai envie de dire, ils entretiennent vraiment le jeu sur la durée, et puis ça amène encore une personnalité à une longue liste de guests mythiques, hein, Terminator, Freddy, Jason, Alien, enfin des icônes geeks qui sont apparues à un moment ou un autre dans cette série, donc c'est cool. En tout cas, on jugera sur pièce comment on va se comporter Robocop dans le jeu de baston. Rappel, 1 contre 1, MK11 qui est sorti il y a quand même quelques mois et qui est bien entretenu par son éditeur, même si là il faut repasser à la caisse avec un prix quand même pas donné. On en reparlera.
J'en prendrai pour 1$.
Ah bah là oui, t'auras pas grand chose, je pense, pour 1$, malheureusement. Mais bon, on en reparlera, on va suivre ça de près en tout cas.
Je vais juste ajouter.
Ah pardon, vas-y, oui,
corriger.
Ah oui,
plutôt faire un droit de suite sur The Last of Us pour préciser que. Oui. Que c'est finalement pas des salariés en colère qui ont leaké le jeu, mais un hacker. Donc en fait, tout va bien, les salariés vont bien, on imagine.
Oui.
Et le jeu est reparti comme en 40.
C'est vrai que l'info est tombée entre deux. Hein. C'est vrai qu'il y avait des gros doutes. Ouais. C'était vraiment, tout le monde pensait que c'était plutôt côté employé et pas du tout, ouais, en effet.
Et
il y a eu une bande-annonce qui est sortie.
Une petite mise à jour, Marius, sur une autre news de la semaine dernière.
Voilà, tu m'as fait sortir une connerie sur The Wire, parce que David Simon a précisé les déclarations de Pelecanos. ils sont bien en train d'écrire un truc, ça se passera bien à Baltimore, ça sera bien sur les flics, mais ça ne sera pas avec le casting de The Wire et ça ne sera pas relié à The Wire directement. Voilà.
Voilà.
Mais c'était du Lost in Translation, c'était une traduction qui a été mal, c'est ça, je crois.
J'en sais rien. Oui, a priori, ça devrait être ça, mais c'est difficile de savoir quand on n'a pas les bandes, quand on n'a pas. C'est Pelecanos peut avoir dit des conneries aussi.
Une précision utile et pas forcément triste parce que ça fait une nouvelle série de David Simon à Baltimore de toute façon, et ça c'est pas mal.
Ouais, forcément bien.
Ouais. Le com des coms de la semaine dernière, on commence avec Red. Qui fait ah ouais, on en est là. Je rappelle que si il est admis que certains puissent utiliser le terme de beat them all parce qu'on est très gentil, le bon terme est beat them up. Ou alors moi aussi, je commence à mettre des S à jeux vidéo partout. Voilà.
C'est... Oui, il a raison, mais oui, moi j'emploie le terme que j'utilisais quand je jouais à Street of Rage. Voilà.
Je crois que c'est une déformation de la presse française de l'époque, en plus, je crois. Oui. C'est entré dans les mœurs comme ça. Et c'est vrai que la sonorité est plus facile, en plus, tu sais, la langue, c'est toujours l'oral qui prend le dessus. Ça, c'est une règle. C'est toujours l'oral qui la facilité à l'oral. Et beat them all, c'est plus facile à dire que beat them up. C'est moins agressif et du coup, c'est vrai qu'il y a une tendance à aller là-dessus. Puis, j'aime bien beat them all. Puis, il y a une imagerie, on les tape tous. Enfin, il y a un côté que j'aime bien. Voilà.
C'est un anglicisme construit en France, en fait, je crois.
Hein, oui, c'est génial. C'est complètement.
On peut dire brawler.
J'assume tellement cette horreur que je l'ai même écrit dans Libération.
Mais tu as tout à fait raison et moi je te soutiens.
Je savais que c'est beat them up, mais pour moi c'est beat them all et c'est comme ça que j'ai appris.
Voilà.
Ouais, je suis d'accord.
Donc on accepte la critique, mais on assume.
Nous prenons note.
Kirby qui nous dit « Entre le kink de Patrick sur Deadly Premonition et l'intégralité de la bande qui s'essaye à SnowRunner, ça devient difficile de cacher que Silence on joue est le podcast officiel des joueurs déviants. » Voilà.
On assume aussi, hein. On veut dire. Voilà, je pense qu'on a passé. Alors, en fait, les gars, on a passé l'âge de faire semblant. Enfin, maintenant, voilà, on y va franchement. On dit à quoi on joue, on dit ce qu'on aime, et puis voilà. Je pense que on assume.
On n'a jamais fait semblant, je crois.
Non, c'est clair. Mais moins que jamais en ce moment.
Exactement. Et enfin, Oyoyo qui revient un peu sur le jeu de la semaine dernière. Hein, donc. J'ai pris Streets of Rage 4 dès sa sortie, j'adore cette licence. J'ai des souvenirs émus de mes années de 6e et 5e où je m'étais fait prêter Streets of Rage 2 et c'est peut-être mon jeu préféré sur cette console. C'est le meilleur, le 2.
Ouais.
Ça faisait en plus longtemps que je voulais faire un beat'em up avec mes fils et je ne voulais pas les mettre devant Mother Russia Bleeds qui est trop hardcore,
un peu trash.
Niveau DA, violence, glauque, etc. pour des enfants de 7 et 10 ans. On s'est vraiment marré en y jouant donc à Streets of Rage 4, mais on s'est aussi bien engueulé vu que j'ai eu la mauvaise idée de laisser le Friendly Fire.
Ouh,
je
oui.
ne sais je ne sais pas si on peut
bah,
parler
faut,
de jeu.
Faut.
Bah il faut ouais.
Bah oui, autrement c'est moins drôle.
Sinon c'est pas drôle.
Je ne sais pas si on peut parler de jeu scolaire, mais en tout cas la copie est impeccable. DA super, musique dingo, gameplay modernisé tout en respectant l'esprit de la licence. Clin d'œil amoureux à des séquences des épisodes précédents, scénario débilos premier degré et on peut même jouer en ligne en coop parce que ce genre de jeu est vraiment plaisant à plusieurs avant tout. Ils ont tout compris et tout réussi, bravo. Voilà.
On est d'accord, ils ont fait c'est un vrai effet de, on en a parlé, c'est un effet de style de recréer une suite. Mm-hmm. C'est à la fois une recréation du jeu original et une suite, on va dire canonique avec le 4, mais tu sens qu'il y a un respect du, ils ont pas essayé, comment dire, tu sens que les studios, ce qui sont trois, se sont pas mis en avant, ils sont au service d'une série et ça c'est pas évident. Hein. Je pense que t'es tenté de te dire bon c'est moi, je vais m'accaparer cette offre, je vais en faire ce que je veux. Bah non, tu sens que là il y a du fan service, pas seulement, c'est bien fichu, mais il y a un vrai respect des jeux originaux et un amour des jeux originaux, ça transpire à l'écran. Enfin,
oui.
Moi, je trouve chapeau bas parce qu'en plus c'est un jeu qui a un contenu colossal. Enfin, vraiment, c'est vraiment du très beau travail, hein. Vraiment, sincèrement. Même la bande originale, hein, moi, je trouve qu'elle est fantastique. Hein. Enfin, c'est
on l'a dit
incroyable.
La semaine dernière et on valide. Mais voilà, et ben c'est le moment de commencer le programme. Et donc là, on se dirige vers la ville à plusieurs étages, plusieurs niveaux, la ville très verticale de Nivalis. On est en plein univers cyberpunk, hein, voilà, pour le genre cyberpunk, pas la licence évidemment. Ça s'appelle Cloudpunk. The city moves real fast, and you've got to move with it. You make a million choices a day to survive in Nivalis.
And some of those choices are gonna hurt folks.
Life is going to be hard here in Novalis. You need to prepare yourself for that.
This is CorpSec. You're speaking to Agent Rio. You are currently breaking the law. CorpSec requires you to turn in your passenger and surrender yourself to...
If CorpSec have one priority, it's making sure...
Donc Cloud Punk sorti il y a quelques semaines et donc jeu d'aventure, jeu narratif, jeu de conduite dans cet univers vertical qui rappelle pas mal d'univers de SF. On pense notamment parce que la référence est assez immédiate, en tout cas visuellement au cinquième élément.
Moins visuellement que le principe du jeu, en fait. C'est conduire un taxi dans une ville, enfin un taxi volant.
Oui.
Pour le coup, c'est clairement le cinquième élément.
Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Après,
ouais. j'ai plus vu Blade Runner, hein, mais bon, après, chacun ses marottes. Hein, mais moi, c'est Blade Runner à donf. Mais...
Ah bah, sur la circulation des voitures volantes à plusieurs niveaux de hauteur, c'était... je pensais à ça. Bref. Ne s'empaillons pas, déjà, on va pas s'empailler sur la description de la vie. Bref, on incarne donc Rania, qui est embauchée dans un service de livraison qui s'appelle Cloud Punk, prendre des colis, les amener à leur destinataire, mais avant tout, c'est des histoires racontées. Patrick, toi, t'en as pensé quoi et comment t'as vécu ce Cloud Punk?
Bah écoute, moi j'ai trouvé le début vraiment grisant. Enfin moi, il y avait un côté Blade Runner, rentrer dans Blade Runner dans ce taxi. Je trouve qu'il y a un vrai effet wow quand tu lances le jeu, quand tu te retrouves aux commandes de ce véhicule qui fait penser au spinner évidemment. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup plus pensé à Blade Runner, c'est parce que c'est plus dans mes codes effectivement.
Ouais. Ouais,
la ville m'a vraiment fait penser à celle de Blade Runner, les ambiances, la visite de l'appartement de l'héroïne. Je vais même croiser un logo Atari sur une devanture, tu as ces fameuses publicités gigantesques. Non, vraiment, il y a un effet wow visuel de se retrouver là-dedans parce que ça marche. Les mecs ont codé ça, c'est un studio allemand, je crois. Ils ont trouvé une technique, alors ils ont utilisé du voxel. Alors le voxel, c'est une technologie qui date depuis quelques années. Moi, je me rappelle avoir côtoyé, par exemple, sur un jeu comme il y avait Outcast dans les années 90. Le Blade Runner aussi, le Blade Runner de Westwood utilisait parfois le voxel, je crois, pour modéliser les personnages, notamment. Donc, c'est une technique qui fonctionne bien. Pardon ?
Plus récemment, il y avait Industries of Titans aussi.
Ouais, qui utilisait aussi ça. Et c'est vrai que c'est une bonne technique qui permet d'économiser de la ressource tout bêtement. Je suis pas un spécialiste.
Juste le jeu connu pour le voxel aujourd'hui, c'est Minecraft. Hein. Enfin, c'est
ouais, bien sûr.
L'unité, ouais. C'est cette espèce de pixel, ce cube 3D qui sert de pixel 3D. Voilà,
on ne
peut pas parler
modernes,
de voxel aujourd'hui sans parler de Minecraft. Donc de modéliser comme ça des choses assez grandes, assez gigantesques, sans avoir de problème de texture, de mémoire, de choses comme ça. Et c'est vrai que
ça marche bien. Je trouve qu'il y a vraiment un effet Blade Runner-esque à l'écran. Et j'ai même envie de te dire, parce que quand tu avances, évidemment, tu vois bien que le côté décor, et tu te rends bien compte des cellules comme ça graphiques qui sont là, les cubes. Mais j'ai envie de dire, ça, pour moi, ça a même participé au rendu proche du... Bah, ça m'a vraiment évoqué le film de Ridley Scott, parce que ce sont des maquettes dans le film de Ridley Scott. Et même ces petites pertes de détails quand tu approches d'une structure, bah pour moi, ça fait partie d'un trip visuel d'être en face de maquettes comme si tu étais sur un lieu de tournage quasiment. Enfin, j'ai trouvé que ça marchait bien et tu as vraiment un effet de foisonnement à l'écran. Bah, tu vois, je joue sur un PC qui n'est quand même pas un foudre de guerre et ça marche bien. Je trouve que visuellement, tu as cet effet de surcharge visuelle mais qui reste élégante. Bah, je trouve que le jeu conserve une élégance alors qu'il aurait pu vraiment tomber dans une sorte de bloubi-boulga visuel, et non, je trouve qu'il garde une cohérence. Et puis dans le gameplay, parce que donc on joue cette taxi girl qui pilote comme ça un engin de taxi, je trouve que ça fonctionne bien de se retrouver avec des... Alors on est libre, on est sur un monde ouvert, on peut parler d'un monde ouvert, on peut se balader, on a des points à aller récupérer, etc. Mais on a aussi ces systèmes qui sont bien trouvés, je trouve, d'autoroutes qui permettent d'aller plus vite. On a des sortes d'embranchements comme ça qui permettent d'accélérer parce qu'on est sur des lieux de conduits qui accélèrent la route. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. à la fois sans le en termes de visuel et de gameplay, même si, effectivement, manette en alors, main, ouais. Tu te retrouves vite, t'es plus sur un pilotage de semi-remorque, parce qu'on est quand même pas, on est pas sur, on perd assez vite cette élégance du spinner de Blade Runner, on se retrouve vite à galérer sur la mécanique de gesticulation dans les rues, etc. En tout cas, premier contact, vraiment enthousiasmant, l'ambiance, les musiques, tu sens que les types qui ont codé ça aiment ces univers-là, qu'ils ont respecté l'ambiance. Et qu'ils ont vraiment réussi à créer quelque chose à l'écran. Pour moi, ça fonctionne. En tout cas, sur le premier contact, il y a vraiment un truc qui se passe. Je pense que vous en avez pensé, mais.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que la ville est très dense. Le côté circulation guidée, mais aussi, on a la possibilité vraiment d'aller se faufiler entre les immeubles et de se perdre dans le smog. Ça, c'est assez plaisant. Ouais, vrai problème, c'est que le jeu, c'est un jeu de livraison et le rêve de voiture volante marche vachement bien. Mais il développe, il est sans cesse rappelé à des phases à pied pour récupérer les colis qui sont super relous.
Ah bah c'est un tue d'amour, clairement. C'est
une grosse partie du jeu qui consiste à trouver un parking, trouver une place pour se garer, et après trouver des ascenseurs pour rejoindre la zone où est caché le colis. Et c'est super pénible.
Et c'est dommage parce que, t'es dans une fulgurance d'ambiance, et puis il y a ces moments déjà. Alors moi j'ai trouvé que c'était mal indiqué. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Pour se garer, le jeu t'indique très mal les lieux. Alors tu galères quelques temps pour identifier une plateforme de recharge d'essence, parce que t'as aussi le management essence énergie du véhicule. Et puis les parkings, il faut les identifier, mais t'es un peu lâché là-dedans. Et c'est vrai que l'écran est surchargé, hein, mais ça c'est une des qualités du jeu. Visuellement c'est foisonnant, mais du coup tu te retrouves un peu perdu au début. Il faut vraiment s'investir pour trouver les endroits de parking, etc. Je trouve que c'est mal expliqué. Et puis effectivement, il y a cette déconfiture des marches à pied. Alors je comprends le principe. Je pense que l'idée c'était de faire pas un GTA, mais presque un simili GTA-like, vraiment de monde ouvert assumé où tu peux un peu partir à l'exploration. Le problème, c'est que le jeu se prend les pieds dans le tapis au moment où tu sors de ton spinner. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais dès que tu te retrouves à pied, en plus, t'as un système de caméra lointain où tu perds toute visibilité, tu vois pas les obstacles. Enfin, c'est pénible.
Ouais, la caméra est très mal gérée. Voilà, et surtout, c'est pas de rares moments qui viennent gâcher le jeu.
C'est systématique.
Quasiment la moitié du jeu consiste à descendre du véhicule et à galérer pour retrouver son colis, parce que tous les niveaux à pied se font sur plusieurs étages, sauf que le colis n'indique pas si c'est plus haut ou plus bas, donc on passe son temps à se perdre, galérer avec des caméras un peu capricieuses, et le jeu a des ambitions narratives, il y a des choses qui sont plutôt pas mal écrites, mais il y a aussi plein de petits défauts sur ces zones à pied, de rencontres de personnages qui viennent sortir, je trouve, du délire, quoi.
La précision des interactions, ce genre de choses.
Globalement, c'est bien écrit, mais quand on croise des personnages qui s'appellent Gros Narco, en un mot, avec un temps, ça sort complètement du délire. Enfin, je trouve qu'il y a des
Il y a une subtilité très relative. Ouais. Après, j'ai bien aimé, il y a des moments réussis, parce que donc on est une jeune pilote de taxi qui débute en fait, et puis on a une sorte de chef qui nous donne des commandes à honorer, donc aller chercher tel colis, etc. Puis très vite il y a ces choix à prendre pendant la partie, c'est-à-dire qu'on te donne, tu vas aller chercher un colis, tu vas entendre un tic-tac dans la boîte et tu as le choix ou bien de la porter à ta destination de commande qu'on t'a demandé de faire gentiment. En plus, tu entends qu'il se passe des choses avec ton interlocuteur, il y a quelque chose de pas clair chez CloudPunk, donc la boîte de livraison, ou alors de décider d'aller sur un autre point qui est apparu sur la carte. Ça, j'ai trouvé ça malin, c'est de laisser le joueur actif avec deux points sur la carte qui lui disent où tu vas livrer ton truc où il faut, ou alors tu fais le choix d'aller le déposer dans une décharge ou je ne sais quoi pour pas qu'il explose, parce que tu te doutes que c'est une bombe. J'ai trouvé ça malin de te mettre in situ, prends ta décision manette en main, quoi, tu te débrouilles. Et puis tu vis avec, parce que tu vas prendre une décision, tu vas livrer ton paquet, et puis dans la mission suivante, tu entends une explosion, tu comprends que c'est lié à ce que tu as fait. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était pas mal en termes de narratif, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Pour moi, la vraie plaie, ce sont ces passages à pied, où la bonne idée d'origine de ce foisonnement visuel lorsque tu es en taxi, ça contribue à rendre le jeu illisible. Et c'est vrai que les séquences à pied sont... Moi, il y a vraiment surtout, eu deux, trois fois séquences à pied où j'ai failli lâcher la manette, dire j'en peux plus, je vois pas où je dois aller, c'est illisible. Des fois, tu dois appuyer sur un perso, ça a du mal à s'enclencher. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils se sont forcés à intégrer ça, qu'ils l'ont mal fait. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais.
C'est pas tellement l'existence des phases à pied que cette espèce de faux puzzle qui consiste à retrouver le bon étage.
On a t'as pas signé pour ça?
C'est rallonger la durée de vie de façon arbitraire là où il n'y a pas besoin. Quoi.
C'est pénible et t'as pas signé pour ça en fait. Et du coup, effectivement, ça devient un puzzle avec des fois des. Oui, tu dois sortir d'un bâtiment, prendre une. Comment dire une... Tu vas prendre un conduit pour aller sur un autre bâtiment qui va descendre d'escalier. Enfin, oui, ça devient, comme tu dis, c'est un puzzle game, mais qui du coup. Ah, t'as pas signé pour ça, mais quoi.
C'est vrai ce que tu dis, c'est que on comprend finalement en cours de jeu que le challenge, le défi qui va nous être proposé, à aucun moment c'est d'aller d'un point A à un point B ou de conduire parce que les phases de conduite sont plutôt cool. Enfin, mis à part c'est si tu te cognes un petit peu et que tu dois faire des réparations, t'as pas quand même des gros challenges en mode voiture.
Une petite incartade sur ce moment où tu te cognes, je trouve qu'il y a un bruit de plastique qui est émis par le véhicule qui casse vraiment le délire. C'est très con, mais l'ambiance est parfaite. Et là, on a ce bruit de plastique qui rajoute le côté. Ouais, voilà, ça pète le délire Lego complètement. Ouais.
Enfin, mais c'est vrai que, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que le fait d'aller de l'endroit où je me suis garé à l'endroit où je dois livrer et où récupérer un colis, c'était le challenge de gameplay. C'est-à-dire que le puzzle, c'est trouver ton chemin. Et c'est vrai qu'au moment où problème, tu comprends ça, tu dis « Mais non, les gens, mais pourquoi vous avez fait
c'est
ça ?»
C'est pas ce que je veux,
C'est pas ça, enfin, j'ai pas envie de jouer à ça. J'ai pas envie, pas envie que ce soit un challenge au moment où je me gare. Et au moment où tu comprends qu'ils ont voulu en faire un défi, tu te dis, non, mais vous n'avez pas compris, on n'a pas envie d'un défi à ce moment-là. On n'a pas envie d'un défi, trouve ton chemin
puis la caméra, enfin
dans des étages d'une ville verticale quand tu es à
Paris. Tu as beaucoup de marche parfois, tu as beaucoup de marche. Tu as des passages où vraiment.
Oui, parce que c'est un défi. Parce que c'est un labyrinthe en fait. Ils en ont volontairement fait un labyrinthe et c'est. Et du coup, c'est très très bizarre. Après,
et tu souffles. Dès que tu rejoins ton taxi, ça y est, je repars, je redécolle, et là, tu reprends de l'altitude.
Oui, parce qu'en plus,
ça m'a rappelé.
Le truc, c'est qu'il faut se souvenir où est-ce que tu as garé. Enfin,
oui, en plus.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc très triste, c'est que toutes les phases en voiture, tu es content.
Oui, tu es bien.
Dès que le contrôle te donne ton point, dès que tu t'approches de ton point d'arrivée, tu
te dis « Ah non !»
Tu n'as pas envie, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi, ça m'a rappelé, t'avais pas mal de jeux dans les années 80 comme ça, qu'une bonne idée, et puis t'as souvent des petits passages. Tu vois, c'est dommage parce que, et là, tu peux pas y couper, quoi. Ça fait partie de l'expérience même du jeu et ça endommage toutes les bonnes idées, les fulgurances visuelles. Moi, j'ai adoré. Hier, quand tu rejoins ton appartement, c'est du Blade Runner à 200%. Ouais. T'as ce plan de caméra où tu sors de l'appartement, comme dans le film Blade Runner, et tu regardes l'extérieur. Enfin,
pour moi,
il y a une magie visuelle. Ils ont vraiment trouvé un truc avec ces voxels sur la représentation des immeubles. Le côté grandiose, les fumées, bon sang, l'ambiance est chouette, hein, vraiment, c'est vraiment dommage.
En termes de design, il y a aussi une autre bizarrerie pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de phases de dialogue, notamment de phases de dialogue soit avec ton intelligence artificielle, Camus, qui est un ancien chien qui est... C'est plutôt marrant d'ailleurs, enfin les
oui,
dialogues
mal,
sont plutôt cool, soit évidemment avec son interlocuteur à Cloudpunk ou avec d'autres interlocuteurs par téléphone. Et en fait, ces dialogues qui n'offrent pas de choix, en tout cas, moi j'en ai pas eu, c'est vraiment des séquences assez longues. Alors, qui sont doublés, ça c'est vraiment pas mal, hein, c'est plutôt bien doublé et c'est pas mal que ce soit doublé pour l'ambiance. Mais du coup, on les écoute soit en marchant, soit en étant dans sa bagnole. Le moment où s'enclenche la conversation, de manière générale et assez systématiquement, on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que on est en stand-by, ça veut dire qu'on va, c'est un peu l'antithèse d'Oxenfree. Ou à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le genre le walking and talking game, où on était en train d'aller d'un point A à un point B et s'enclenche une conversation pendant qu'on marche Donc ça anime d'une manière assez intelligente le fait de se déplacer. Et ben ici, au moment où la conversation s'enclenche, on est immobile, on ne sait pas où aller. Alors soit on fait des petits tours de quartier dans sa bagnole, voilà, pour visiter. Soit on est en stand-by en attendant que la conversation se termine et qu'on nous assigne un objectif. Et du coup, c'est un petit problème de design, mais je trouve qu'il, moi, me sortait parce que j'étais un peu comme quand tu sais pas quoi faire de tes mains dans une conversation ou dans un où tu t'es un peu gêné, tu vois, t'es là avec ton pad en main et t'attends que t'aies un indicateur vert sur la carte pour te dire où aller. Enfin, c'est très très bizarre. Je sais pas si vous avez aussi ressenti cette.
Moi, c'est vraiment, il y a un moment dans le jeu où j'ai failli arrêter à cause de ça.
Ouais.
Où j'étais devant le véhicule, où t'as un dialogue interminable et relativement, enfin, prévisible, et c'est abusé, quoi. Enfin, y a vraiment, et t'as des moments où tu peux zapper les dialogues, les accélérer, ouais. Te contenter de lire, et d'autres pas du tout. Et c'est plein de petits choix de design maladroits comme ça qui
plombent le jeu. Oui, parce que s'ils avaient pensé le truc comme étant des dialogues pendant que tu conduis ou pendant que tu marches ou tout ça, enfin, ouais. Je trouve que en termes de fluidité narrative, ce serait vraiment bien passé. Et c'est vrai que cette ambiance à la Blade Runner et cet aspect visuel qui est hyper séduisant, je pense qu'on en aurait beaucoup plus profité à ce moment-là. C'est très bizarre. Alors moi, je suis un petit peu gêné pour dire n'y jouez pas, c'est tout cassé, parce que je trouve que l'intention est bonne.
Mais il faut savoir où on met les pieds.
Ouais.
Sans jeu de mots, parce que c'est vrai que les passages à pied, il faut les encaisser, quoi. C'est dommage, ça joue à pas grand chose. Hein.
Marius,
je trouve que c'est un très bon client pour les films, quoi.
Ouais. Carrément, c'est à 20€. Bon, c'est pas non plus hors de prix en mode normal. Hein. C'est à 20€. Alors en termes de scénario, on est sur un scénario cyberpunk hyper classique, enfin post-futuriste, anticipation, avec des améliorations de la cybernétique et des intelligences artificielles un peu partout.
Puis des rencontres, surtout. Comme dans Night Call, hein, vous rappelez Night Call dans Paris, où on rencontrait beaucoup de gens, on créait un peu comme ça une histoire au fil des rencontres. Bah là, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de personnes avec qui on va discuter, ou des objets, sans en dire trop, qui vont se mettre à nous parler pendant un parcours. Ça, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a une narration un peu fragmentée comme ça, qui est intéressante, qui se marie avec un rapport à la ville, comme Night Call. Hein. Je trouve qu'il avait bien développé cet aspect-là. Après, voilà, les passages à pied, je sais pas.
Je trouve que Night Call était quand même bien mieux écrit, quoi.
Ouais, bien sûr, sur les échanges.
Il est plus proche d'un autre jeu de taxi qui est sorti dans l'année, qui s'appelle Neo Cab, qui était lui aussi dans un univers cyberpunk, qui était plutôt bien écrit aussi, hein, qui était un chouette jeu.
Mm-hmm. Bah écoutez, c'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy Klitskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Cette semaine, un épisode un petit peu particulier, parsemé de petites anecdotes personnelles, toutes liées évidemment au jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons par cette initiative qu'on a eue en famille de jouer à un jeu, comme ça, voilà, spontanément. J'ai environ 600 jeux dans ma collection, il y en a plein auxquels je n'ai pas encore joué. J'en ai donc sélectionné 3 assez rapidement, je les pose sur la table et là, il y a mon jeune fils de 8 ans qui me regarde. Papa, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer contre vous, j'ai envie qu'on joue ensemble. Il venait de me proposer de jouer à un jeu collaboratif. Et là, moi, bah, forcément, je suis sous le choc. En temps normal, je l'aurais déshérité, mais là, j'ai tenté l'empathie. Et j'ai accepté de considérer sa requête. Je me suis donc connecté sur BGG où j'ai répertorié plus des 3/4 de ma collection. En passant, j'ai appliqué des notes à chacun, donc si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous donnerai le lien dans le forum de Silence on Joue. Enfin voilà, j'ai utilisé le moteur qui permet de filtrer en fonction de certains critères et j'ai choisi collaboratif. Et donc je ne possède que 10 jeux collaboratifs. Et la deuxième anecdote, les plus anciens auditeurs se souviendront peut-être que je suis aussi auteur de jeux de société. J'ai récemment signé un jeu avec le plus gros éditeur chinois qui s'appelle Broadway, je le connaissais évidemment de nom, mais je ne pensais pas avoir de jeu. Et donc parmi les 10, je vois ce nom Dim Sum Jam. Un jeu de Broadway collaboratif auquel je n'ai pas encore joué, acheté à Essen en Allemagne il y a quelques mois quand il y avait encore des festivals. Et la troisième et dernière anecdote, avec quelques amis, on organise chaque année une game jam, donc plus de 500 personnes qui viennent faire un hackathon de jeux de société. Il y a 2 ans, le thème c'était la bouffe, et donc la moitié des équipes ont tenté de faire des versions jeux de plateau de Overcooked, Et franchement, il n'y avait rien de convaincant, ça paraît vraiment impossible. Et donc, on a joué à Dim Sum Jam. Bon, il n'y a vraiment rien qui peut être aussi bien qu'Overcooked dans la vie, hein, en général. Mais là, vraiment, ce jeu fonctionne. Le principe du jeu, ce sont 7 tables de 4 qui sont alignées au centre. Les joueurs ont chacun 5 jetons Sushi devant eux. Sur chaque jeton, il y a un numéro de table, mais il ne s'agit pas de le poser sur la table correspondante, mais au contraire, d'imposer au joueur suivant de poser son propre jeton sur la table du numéro correspondant. Et comme il y a un sablier d'une minute pour faire une commande, ben, il faut aller très vite. Ce qu'on veut pas, c'est de se retrouver dans une situation où un des joueurs ne peut pas poser un sushi parce qu'il n'a pas le bon type en fonction de la commande. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce jeu, il y a trop d'informations pour qu'il y ait un effet leader, c'est-à-dire qu'une personne prenne le contrôle et dise aux autres ce qu'ils doivent faire. Ça arrive très souvent dans les jeux collaboratifs, sauf à Overcooked, évidemment, où tout le monde est leader, on se met sur la gueule. Mais pas là, Dim Sum Jam, c'est une très bonne surprise. Il n'y a pas besoin de lire pour jouer au jeu, mais sachez quand même que les règles ne sont qu'en anglais et en chinois. L'auteur Liu Chao s'est donc édité chez Broadway de 2 à 5 joueurs pour des parties d'un quart d'heure environ. Et voilà, comme quoi le confinement peut générer des envies, des besoins de collaboratif. Vivement que ça se termine. Bye bye.
Bye bye à la semaine prochaine. Et c'est le moment où on va faire du tour par tour. Alors moi, je sais pas vous, mais là, lui, je l'ai pas vu venir du tout.
Ah moi non plus.
Je sais pas.
C'est Marius hein, qui nous a alerté. Hein.
Ouais,
et moi, je l'ai lancé en me disant que j'allais pas y passer bien longtemps, quoi.
Ouais. Ouais,
on est tous pareils. On l'a tous pris.
Parce que l'idée de mêler l'univers de Gears of War avec un tactical, ça relève à peu près de l'oxymore, quoi. C'est le plus bourrin du monde.
En tout cas, ça s'appelle Gears Tactics.
So what's next, Mustache Man?
It's Sergeant now.
Ukon.
Oh, really? And how are we going to do that?
I think I know a guy.
Alors, Gears Tactics, vous l'avez compris, c'est la franchise Gears of Wars, donc la franchise de Microsoft qui est donc. Là, une des franchises phares de la Xbox, comme tu l'as dit, Marius, t'as pas la licence la plus subtile de l'univers. Ici, au niveau du scénario, ça se passe avant le premier Gears of War, et le but, c'est on suit Gabe Diaz, donc le père du protagoniste de Gears 5. Et donc, c'est une mission secrète, etc. Mais bon, bref, est-ce que le scénario est vraiment important? On peut en parler, on peut en discuter. Qu'est-ce que ça donne, Marius, ce Gears Tactics?
Vu que tu parles du scénario, je vais attaquer par là, ce qui n'est pas forcément le côté le plus brillant du jeu. Mais alors, le problème, c'est que le jeu veut nous raconter une histoire. Il nous raconte, enfin, qu'il s'installe dans un cadre préquel. Et que du coup, il faut des belles cinématiques. Et que pour des belles cinématiques, il faut des héros. Ce qui n'est pas anodin dans un tactical, puisque ça impose du coup un casting. Les personnages sont souples dans la mesure où on peut les pimper en suivant des arbres de compétences qui sont très élaborés, qui permettent en gros de faire 4 builds différents pour chaque personnage. Mais du coup, ça change l'attachement qu'on peut avoir à des personnages lambda qui sont, enfin, en gros, avec le modèle XCOM, quoi, qui tient à un casting de personnages lambda, mais qu'on soigne, qu'on chérit, parce que il est possible de les perdre et de les voir mourir et de se retrouver dans la merde à cause de ça. Là, les héros, à la fin de chaque mission, retrouvent tous leurs points de santé, et du coup, on perd tout cet aspect vraiment un petit peu micro-gestion.
Campagne, qu'il y avait tu veux dans dire, campagne.
Voilà, de la campagne, où il s'agit de gérer chaque blessure pour se dire qu'on se fout pas dans la merde sur 3 ou 4 missions.
Et puis il y a un truc un peu magique dans les XCOM de s'attacher à des personnages générés par l'ordinateur. C'est
random, quoi.
Ouais, c'est un personnage random généré. Et puis tu vas créer de l'affectif avec ce truc. Tu vas y tenir. Tu sais que c'est un très bon sniper, qu'il va voilà.
Tu te crées ton histoire en fait. Tu te crées ta propre.
Et donc là, dans voilà. Ce Gears, c'est pas la même chose.
Alors tu as ça. Tu as des troupes. Qui viennent grossir les rangs et qui permettent notamment de mener à bien des missions secondaires qui sont nombreuses et qui immobilisent une partie du casting. Et du coup, tu es obligé d'aller piocher là-dedans. Mais forcément, tu es moins attaché. Et tu es d'autant moins attaché qui a une erreur, je trouve, de fabrication, enfin de design, pareil, sur ce casting-là, c'est que tu les embauches, forcément, tu utilises plus souvent tes héros, et du coup, ils gagnent en level assez peu. Mmh. Et plutôt que de leur faire gagner artificiellement du level, tu peux réembaucher des mecs après chaque mission qui, eux, sont calés sur ton niveau à toi.
Ah ouais.
Toutes tes troupes perdent en pertinence au fil du temps. Ce qui est vraiment con. Enfin, au lieu de créer un attachement, ça crée vraiment un effet jetable de ces personnages-là. Mmh. Et c'est d'autant plus dommage que le jeu est super soigné et graphiquement et permet de pimper comme dans XCOM ces personnages, de leur créer des petits looks à chacun, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Hormis ce défaut-là, qui est lié au côté franchisé du truc, le côté franchisé permet d'avoir un jeu qui est sublime visuellement, qui a clairement un travail sur le son qui est d'un autre level que les XCOM, que les jeux du genre, parce qu'il y a des ressources avant, quoi.
Mmh.
Et ça, c'est,
les assets,
c'est le côté super sexy de Gears Tactics, qui t'appâte assez vite et qui marche d'autant mieux que le jeu est super profond et marche très très bien, parce que tous les tacticals dans ce goût-là reposent sur le fond de jeu, en fait. Mmh. Et là, ce qui marche très très bien, c'est le système d'allocation de ressources pour chaque membre du commando. Donc on fonctionne avec un nombre imposé maximum de 4 joueurs, de 4 personnages qui disposent tous de 3 points d'action. Mais le truc qui est formidable, c'est que en fonction des compétences de chacun, on va pouvoir créer des boucles vertueuses. Et du coup, un chef d'escouade, donc Gabe en général, qui est imposé par le jeu, permet de booster un sniper ou un autre joueur pour qu'il ait plus de points de compétences, qui, s'il est bien joué, va réussir à sniper des mecs, créer des critiques qui permettent, eux, de créer des boucles de plus qui se superposent, et ça crée des situations de jeu qui sont formidables où tu es dans la merde au début et tu te retrouves à dégrouper 4, 5, 6 mecs d'affilée parce que tu as trouvé la bonne façon de jouer, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que pour être clair, tu l'es très bien, hein, c'est juste pour mettre le dire d'une autre manière, c'est un exemple en tout cas, c'est le fait de faire une exécution par exemple d'un ennemi qui est à terre, ça va faire gagner à tous les autres un point d'action. Donc on était limité à 3 points d'action, mais du coup là on a une action supplémentaire, et du coup ça peut créer comme ça un cercle vertueux qui fait que on commence avec 3 points d'action, c'est-à-dire grosso modo 3 points d'action, c'est tirer, se déplacer, recharger, très classique dans les tacticals. Mais là, en créant des enchaînements qui vont redonner à tel ou tel joueur des points d'action, on va pouvoir augmenter et varier comme ça sa séquence de jeu avant la séquence ennemie. Et ça permet de sortir d'un aspect très réduit en nombre d'actions par tour, en fait. C'est si j'étais
l'exécution, je trouve que c'est un truc assez, enfin très très malin, parce que ça permet d'intégrer l'univers de Gears avec ses tronçonneuses et le côté très bourrin du jeu, et ça oblige à jouer l'attaque, parce que forcément quand tu sors pour aller découper un mec, tu te mets à découvert.
Ouais,
et c'est un jeu qui excelle dans son équilibre entre défense et attaque.
Ce qui n'est pas toujours le cas sur cette typologie de jeu. Hein. En général, tu as plutôt tendance à être sur la défense, à être très, très précautionneux.
Souvent, les jeux aussi récompensent l'attaque et pas forcément la défense. Là, tu as un système d'Overwatch qui est super bien équilibré.
Oui, ouais, avec le faisceau.
C'est super utile. Parce que voilà, tu as le faisceau qui est très clair. Tu as aussi le fait que tu peux voir les faisceaux adverses. Qui te permet une transparence totale. Mais surtout, si tu, par exemple, si tu as un artilleur, quelqu'un qui est vraiment sur de l'arme lourde, tu peux choisir de l'immobiliser et de ne rien faire pendant ton tour, et ça va déclencher 3 tirs d'Overwatch pour les trucs d'après. Du coup, ça t'autorise à être très agressif avec d'autres personnages et en même temps de pouvoir les protéger derrière avec un autre personnage qui va équilibrer un peu tout ça. Je trouve ça pour le coup, c'est vraiment super, super efficace, quoi.
Ah, dis-nous tout, t'as combien d'heures, Marius? Parce que je sais que tu l'as bien écumé le jeu. Hein. Entre nous, t'as combien d'heures là?
Je n'ai pas regardé au dernier décompte, mais avant de jouer un peu hier soir, j'étais à 35 heures.
Ah ouais, quand
pour
même.
Un jeu ouais, lancé vendredi dernier, c'est pas mal.
C'est un signe.
C'est un signe. Patrick, toi, tes impressions?
Moi, j'y suis venu, franchement, quand vous m'avez parlé de Gears Tactics, moi, j'imaginais un jeu sur mobile. C'est pour vous dire que j'avais pas du tout suivi l'actu du jeu. J'en attendais vraiment pas grand-chose. J'en avais pas, voilà, je l'attendais pas. Et grosse surprise, moi, en le lançant, hein, vraiment. Alors que c'est pas mon genre de jeu favori, très franchement, c'est pas mon truc en général. Alors moi, j'étais vraiment surpris. Comme vous l'avez très bien dit, c'est la réalisation. C'est vrai qu'on sent qu'il y a le cahier des charges Gears qui est là depuis un moment et le jeu s'amuse à piocher dans les visuels, dans l'ambiance, la musique, les sons, tout est. Enfin, vraiment, tu sens que pour un jeu de ce genre-là, il profite des assets d'un autre genre qui est plus dynamique, plus. Et je trouve que le match des deux fonctionne très bien. Et puis surtout, moi j'étais vraiment agréablement surpris par le côté entraînant de la partie, c'est-à-dire qu'on lance le jeu et même si on n'est pas forcément un accro à au jeu tactical, tour par tour, etc. Je trouve que l'interface, elle sait se faire accessible, instinctive. Moi, j'étais vraiment surpris par l'accessibilité. Je sens que les types qui ont bossé dessus ont voulu vraiment le rendre accessible par les gens qui connaissent Gears. Parce que je pense que voilà, le public cible, c'est quand même les fans de Gears of War. Et j'ai été aussi surpris par la cohérence au final, la cohérence entre ce type de gameplay qui est quand même loin d'un Gears of War qui est du TPS. On rappelle, c'est un des grands noms du TPS avec du cover shooting, etc. Moi, j'ai été surpris de la cohérence entre l'action de Gears of War originelle et ce jeu en tour par tour avec là aussi le cover qui est très important, la façon d'appréhender l'espace, de déplacer ses personnages. J'ai été surpris par la cohérence de tout ça. C'est-à-dire que je craignais un cash grab, une licence plaquée sur un autre gameplay et vas-y que je t'envoie ça. Et pas du tout. Mais je trouve qu'il y a une cohérence. Tu retrouves la dynamique des combats de Gears of War dans un style complètement différent. Et c'est vraiment surprenant. Alors moi qui suis plutôt un néophyte et je ne suis pas un passionné de ce genre-là en général. Moi, j'ai retrouvé certaines mécaniques, vous allez peut-être rire, moi, du Mario et les lapins crétins qui étaient, pareil, très accessibles. Ouais. Il y avait une accessibilité, évidemment, parce que Mario et les lapins crétins, on en avait parlé dans l'émission à l'époque, c'était un jeu très accessible qui faisait tout pour que quelqu'un qui rentre par les licences s'y débrouille et développe son gameplay. Et là, pareil, moi, j'ai retrouvé, encore une fois, un jeu accessible qui t'aide et qui te donne tous ces indices. Tout est très graphique. On est sur un jeu qui a beaucoup de paramètres à gérer. Quand il pense, comme tu disais, Marius, entre les champs de veille, avec ce halo qu'on met en route, les tirs, les déplacements, t'as beaucoup de paramètres, mais à aucun moment j'ai galéré. J'ai trouvé ça très, très spontané, très, très fluide. Et c'était loin d'être gagné. Et puis, t'es embarqué par l'ambiance. Tu sens qu'il y a des moyens. Ouais, vraiment, moi, je trouve une très, très bonne surprise. Moi, j'y ai même joué à la manette, pour tout vous dire. J'avais branché mon PC en mode Xbox. Il n'est pas sorti sur Xbox. J'ai joué en manette sur mon grand écran et j'ai trouvé que le jeu, il avait un clinquant, il avait du lustre, il envoyait quoi. C'est une vraie expérience Gears of War dans un genre différent et c'était pas gagné. Donc franchement.
Ouais, ça marche très bien à la manette aussi. C'est forcément moins pratique, mais ça marche.
Ouais.
Ça marche. Et non, je pense que c'est le jeu le plus accessible dans le genre en ce moment quoi. Et c'est clairement une très bonne porte d'entrée. Après. Après 35 heures, c'est un peu.
Ouais, j'ai pas 35 heures loin de là.
Il y a un peu de répétition dans les environnements et dans les situations de jeu. Il y a une façon aussi d'allonger un peu la sauce avec des missions secondaires où il ajoute des malus, on va dire. À chaque fois, on est frappé par un truc genre moins de munitions pour ce tour-là. Ça, c'est assez pénible. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Alors que, tu vois, le système défense de zone, capture de ressources, libération de prisonniers fonctionne très bien. Là, c'est un peu con. Et ce qui rajoute aussi, qui est étonnant, qui fonctionne très, très bien, c'est les boss qui sont mastoc, qui sont plutôt bien gérés. Même si le deuxième est quand même... moi, j'ai passé pas loin d'une heure dessus. En une partie hein, pour le shooter quoi. T'as pas envie de paumer quoi à ce moment-là.
Tu cramponnes quoi.
Mais du coup t'as un vrai sentiment d'accomplissement à la fin Et c'est marrant d'avoir un côté très épique comme ça sur un,
c'est un tactical. Sur un tactical, ouais. Quoi.
Et puis une VF, ouais. Une VF aux petits oignons, hein, comme souvent dans Gears of War.
Juste pour préciser aussi que c'est pas une sous-licence, c'est un vrai gros jeu. C'est déjà rien que sur son prix, il est à 70 balles, donc c'est.
Ce n'est pas un jeu pour mobile, sûr, c'est un.
sauf que, alors, c'est son prix à 70 euros, ça peut sembler cher, mais moi j'ai l'impression que c'est, il est aussi directement disponible sur le Game Pass. Donc, on est clairement sur une tête d'affiche Game Pass plus que sur un jeu à 70 balles. Hein, c'est grosso modo, prenez-vous quelques mois d'abonnement à Game Pass plutôt que qu'acheter Gears Tactics solo. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de l'acheter solo.
Ça paraît évident.
Du coup, en fait, hein, c'est il est voilà. C'est pour moi, c'est vraiment considéré comme une porte d'entrée Game Pass. Et c'est vrai que moi, j'ai été en voyant le truc, je pensais vraiment que même si c'est une grosse licence et que c'est un gros studio, que je retrouve mes notes, ouais, c'est Splash Damage qui est dessus.
Et Coalition, ouais. Ils ont bossé.
Coalition, hein. Donc, enfin voilà, on sent que.
Les gens de Gears 5, hein, des derniers Gears.
Ouais, enfin, voilà. Il y a vraiment les moyens qui ont été mis dessus. Mais je m'attendais à un petit truc, quoi. Enfin, comme tu dis, Patrick, limite un jeu mobile, quoi.
Ah, bah oui, oui.
Mais c'est vrai que directement, on est totalement dans l'ambiance. Et c'est vrai que même si le scénario, un scénario à la Gears, c'est pas vraiment, franchement, les trucs, c'est parfois un peu problématique et tous ces guerriers avec des épaules démesurées et tout ça.
Ils font 3 mètres de large.
Voilà, ça peut porter à rire.
Mais ça, c'est Gears, hein. Enfin, voilà.
Mais en même temps, on est embarqué dans le truc. C'est-à-dire, c'est un peu un grand. Enfin, voilà, c'est pas un train fantôme, mais on est sur des rails et je pense que ça aide aussi à s'impliquer dans les combats au fur et à mesure du jeu.
Ah bah complètement, ça joue. Bah t'as tout le lore que moi je connais pas parfaitement, mais j'imagine que tout fan de Gears of War va avoir envie de s'y mettre pour découvrir justement une histoire qui est en préquel, etc. Enfin, ça apporte aussi des choses. Donc les gens qui aiment le lore et encore une fois l'accessibilité du jeu fait que vraiment on peut y aller même sans être un fanat de cette catégorie.
J'ai une question innocente, il y a des gens qui aiment le lore de Gears of War?
Bah, je pense. Hein.
Je sais pas.
C'est vrai que ça fait peur. Hein.
Bah, je pense. Hein.
Ça me semble bizarre, tu vois, mis à part connaître le nom des ennemis et encore. Enfin...
Bah, j'attends toujours un film. Ça serait bien qu'il y ait un film Gears of War.
Je crois
que j'y pense. Je vois les trucs en caoutchouc. Ah, si, moi,
non,
je
signe bien.
Oh là là.
Si.
Non, ce serait gênant.
Non, mais justement, il faut.
Tu parlais du Game Pass.
Ouais.
Tu parlais du Game Pass. J'ai même l'impression que c'est un émissaire pour le Game Pass PC, en fait.
Oui.
Ouais.
Que c'est un bon moyen de séduire les joueurs PC qui ont été un peu délaissés par Microsoft et de revenir sur la scène avec ce truc-là. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être essayé. Quoi.
Il est prévu sur Xbox One ou pas? Parce il pourrait passer direct sur Xbox One. Hein. Je ne sais pas s'il est prévu.
Je n'ai pas checké, mais vu le gameplay manette, je pense que c'est fait pour.
Ça me paraît, ça me paraît facile à transposer. Quoi.
Pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas un genre qui est surreprésenté en ce moment. Et ouais. Très 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 belle réussite en tout cas de la part des développeurs. On va autre chose à rajouter peut-être, non?
Non, mais moi j'aime bien t'en parler, Marius. Ça, c'est les animations évidemment de quand tu massacres les ennemis là, et tu retrouves vraiment les animes du jeu d'origine quoi, quand tu les tranches, etc. Enfin, t'as ce côté trash. Tu retrouves l'essence de Gears of War. Je trouve que ça, c'est bien fichu. Alors, je pense que tu as une petite déperdition sur les animations. Je pense que c'est peut-être pas la qualité d'un Gears 5, tu vois, quand tu as la focalisation sur un finishim, je vais appeler ça un finishim, quand tu massacres un personnage. Je suis pas sûr que tu aies exactement la qualité d'un des derniers jeux qui soit sorti, mais ça le fait vraiment. Et je trouve que la mise en scène est vraiment bien fichue. Et moi, je trouve que le rapport à l'environnement,
Il y a des petits trucs tout bêtes, mais. Tu vois, c'est peut-être moins beau qu'un Gears qui est...
Oui, mais ce qui est naturel. Hein.
Mais pour un tactical, tu as plein de petits détails qui fonctionnent très bien, de la façon dont tu as une espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les amas de poussière, là, comme dans les...
Oui, peut
traverser le champ. Et puis, tu as ce truc tout con d'un tactical qui se joue sans grille. Il n'y a pas de grille au sol.
C'est vrai.
Il y a une liberté de mouvement qui vient du RPG, quoi, qui est... Ouais. Il marche très très bien.
Ouais, sur les lancers même d'armes, etc. Et les parties sont assez rapides. Pareil, c'est pas un jeu statique. Alors, il a beau être en tour par tour, je trouve que tu avances assez vite, il y a un rythme. Je trouve que c'est pas un jeu qui... Ouais. Bah, c'est là où tu retrouves aussi, bah, je pense, le côté Gears of War. On est aussi sur une racine de jeu d'action. Donc, même dans sa catégorie, c'est un jeu qui, quand même, pulse bien en termes d'action, de dynamique. Il est rapide, les parties s'enchaînent assez vite. Enfin voilà, je trouve que vraiment il coche pas mal de cases en vert, hein, donc très très bonne surprise.
J'avais juste une question un peu périphérique, Marius. Est-ce que parce que moi j'ai eu cette impression au début, mais c'est normal parce que je suis au début du jeu, donc c'est normal qu'on nous pousse dans certains choix tactiques plutôt que d'autres pour réussir les niveaux et pour qu'on découvre un peu le gameplay. Mais est-ce que plus loin dans le jeu, on a un vrai sentiment de liberté tactique, c'est-à-dire de pouvoir approcher un combat un peu de la manière qu'on veut? Ou alors, on sait qu'il va falloir un sniper là, qu'il va falloir être couvert par ici. Est-ce qu'on a une liberté tactique, ou est-ce que voilà, il faut trouver la bonne solution prévue par les designers?
Non, la liberté, elle tient surtout au choix de classe que tu utilises, en fait.
Ouais.
Parce que plus tu avances dans le jeu, il y a une classe que j'ai négligée, en tout cas au début du jeu, qui m'est apparue après comme complètement pété, c'est le scout. Qui joue avec un fusil à pompe, donc il se joue très près. Et surtout, quand tu récupères, hein, parce que régulièrement, tu récupères des items, des caisses qui te permettent d'améliorer ton matos. Mm-hmm. Et tu as un truc qui permet de réduire le taux d'apparition, enfin le taux d'utilisation des grenades, qui te crée un personnage complètement pété, qui peut utiliser des grenades à tous les tours. Et là, du coup, moi, je me suis amusé à faire des équipes avec un scout et trois snipers. Et tu peux te faire des trucs très, très différents, je pense, de d'autres joueurs.
D'accord.
Et puis, t'as mine de rien, tu as une profondeur dans les arbres de compétences qui fait que tu as envie d'essayer plein de combinaisons.
Ouais, c'est bien ça.
Des snipers en critique, d'autres. C'est vraiment, pour le coup, ça donne une profondeur au jeu qui est chouette, quoi.
D'accord. Eh bien, c'est Gears Tactics, donc 70€, mais qui est aussi présent dans le PC Game Pass de Microsoft. Donc peut-être essayer de le prendre pour quelques mois pour si vous avez vraiment envie d'essayer Gears Tactics, c'est peut-être la meilleure solution. On va terminer cette émission avec un petit jeu. Est-ce qu'il mérite qu'on en parle? Ça, c'est autre chose. En tout cas, il est directement venu de la line-up Apple Arcade. Ça s'appelle Stella. Pourquoi parler de Stella? Parce que déjà, je l'ai fini. Hein. Alors, faut pas arrêter. Du coup, il doit y avoir une raison d'en parler. Et parce que ce jeu est a tellement de problèmes que ça en devient intéressant. En fait, Stella, pour vous dire, j'ai été intéressé parce que j'ai vu une vidéo, comme souvent, c'est le premier contact avec un jeu, et je me suis dit, tiens, un jeu en traveling, c'est évidemment, ça nous rappelle Inside, donc de Playdead, hein, du studio Playdead, qui était la référence de ce genre-là. On en a eu quelques autres, plus ou moins entre traveling et platformer. On se souvient de Gris, il y a l'année dernière, où ce genre de propositions comme ça qui sont parfois intéressantes, parfois un peu bancales, etc. Et là, il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose qui me rappelait vraiment Inside, donc en fait, je l'ai installé et donc je l'ai lancé. Et donc, cette ressemblance à Inside, avec Inside, m'a poussé à lancer le jeu. Et pour le coup, les premières minutes de Stella sont gênantes. Pourquoi? Parce que le jeu est pas moche, il est même plutôt beau. Alors l'animation du personnage est parfois un peu, enfin surtout quand on se réfère au travail de Playdead, qui est là pour le coup, qui est proche de l'excellence, proche de la perfection. Là le personnage, donc on joue une jeune fille, l'animation est un peu un peu approximative, mais bon, c'est pas grave. Les décors sont plutôt beaux et tout ça. Ce qui est gênant, c'est que c'est Inside. C'est qu'on est à la limite. Alors, je sais pas si je m'engage légalement en disant ça, mais on est quand même à la limite du plagiat pur. C'est-à-dire que les premières minutes, les premières 10 minutes de ce jeu-là, on est dans une forêt. Il faut se cacher derrière des arbres pour ne pas se faire repérer par des ennemis. Non, mais on est complètement dans le lancement d'Inside. Alors, on se dit, bon, on va dire que c'est pas un plagiat, que c'est un hommage. C'est comme ça, on se dit, bon, c'est peut-être, voilà, ils ont cette référence-là en tête, donc ça se comprend. Et donc, on continue. Mais là, on arrive dans une ferme. Et là, c'est gênant quand même. Parce que dans Inside aussi, après, on arrive dans une ferme. Ah oui, non, avant d'arriver dans la ferme, on traverse un champ. Ah non, mais dans Inside aussi, on traverse un champ. Enfin, là, on se dit non, mais ils ont, enfin, il y a un problème avec, il y a un problème avec ce jeu. Alors pourquoi on continue? Bah parce qu'on a cette fascination pour un truc qui, c'est quoi cet objet qui est trop référencé pour être honnête. Et donc on continue parce que bon, le gameplay est pas désagréable. On est évidemment à des années-lumière de Inside en termes de d'ambiance, d'impact et de ce genre de choses. Mais et on continue. Et là, il y a, enfin. Les références à Inside sont permanentes. C'est même plus loin dans le jeu, il y a un des plus beaux passages de Stella, on va dire, c'est que il y a des sortes de nuées de flèches enflammées qui arrivent et il va falloir s'abriter entre chaque nuée. Et sauf que dans Inside, je sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là, il y a un passage où il y a une sorte de vague sonore qui arrive et il faut s'abriter à chaque fois en rythme. Et repérer quand est-ce que la vague sonore, l'onde de choc va arriver, et ben en fait, c'est exactement la même chose ici. Donc, encore une fois, on se retrouve avec des éléments, des copier-coller. Alors, élément qui est la limite chelou, c'est que, autant Inside, on comprend, en fait, il y a un scénario qui est hyper présent, mais qui est absolument, qui est seulement environnemental, c'est-à-dire qu'on comprend le scénario, on comprend les tenants et les aboutissants super bien, mais rien qu'en regardant les décors, en regardant ce qui se passe, les actions du personnage, ce genre de choses, les gens qui sont manipulés, les zombies, les expériences scientifiques, enfin tout, on comprend très très bien dans Inside jusqu'à la fin tout ce qui se passe. Là, on comprend rien. C'est les monstres, on sait pas qui c'est, il y a des espèces de bestioles sous la neige qu'il faut éviter, on sait pas d'où ça vient. Alors pour comprendre le pitch scénaristique, il faut regarder la description du jeu. La description du jeu, c'est un platformer atmosphérique où on incarne une jeune femme qui est témoin des derniers jours de son monde ancien et mystérieux. Voilà. Et c'est tout. Hein, voilà. Et on n'en saura pas plus parce que alors le reste du jeu, en fait, ils essayent de raconter une histoire. Ils essayent, hein. Et ils ont au moins cette volonté. On sent qu'il y a cette volonté de raconter une histoire. Mais là, ils n'ont pas essayé de faire comme Inside parce que Inside est totalement compréhensible avec les personnages et avec ce genre de choses. Ils ont essayé de faire ça à la journée. Je sais pas si vous vous rappelez de journée avec où il y avait des petits dessins un peu à droite à gauche qui racontaient l'histoire d'une civilisation, etc. Mais en fait, la force de journée, c'est que même si on cherchait pas à comprendre ces dessins, finalement, l'histoire valait par son ambiance, par le rapport qu'on avait avec l'autre joueur, avec les éléments, avec le fait d'arriver au bout du voyage, et ça suffisait au jeu. Là, on ne capte rien. On comprend rien. Je suis allé au bout.
Tu nous donnes envie, Erwan, là, dis donc.
Mais parce que c'est un ovni, en fait. C'est très, alors, aux manettes, explique peut-être cela, je ne sais pas. Aux manettes de Stella, on retrouve Skybox Labs. Skybox Labs, en fait, Stella, c'est un peu leur seul jeu. Alors, j'allais mettre des énormes guillemets, mais il en faut des énormes guillemets. C'est un peu leur seul jeu original. C'est-à-dire qu'en fait, Skybox Labs, c'est un peu des artisans, des faiseurs. Enfin, ils bossent sur Halo, ils bossent sur Minecraft, ils bossent sur Magic. C'est-à-dire qu'ils bossent sur des licences externes. Soit qu'ils adaptent, soit où ils s'occupent des portages ou des choses comme ça.
Ils ont peut-être gardé l'habitude, du coup.
Ouais, je crois qu'ils sont pas faits pour avoir leur propre jeu original parce que là, franchement, jusqu'à la fin, c'est gênant. Jusqu'à la fin, les références, que ce soit en termes de gameplay, en termes de mise en scène, à Inside. Alors, du coup, j'ai refait Inside pour comprendre. En fait, le seul truc, c'est ça. C'est le seul intérêt de Stella. c'est nous pousser à rejouer à Inside. Ouais, je vous conseille, hein. Franchement, je vous
conseille.
Publicité
déguisée.
Ce jeu.
Et tellement... il t'a quand même tenu jusqu'à la fin.
Ouais, quand alors tu... c'est 3 heures. Hein. C'est 3-4 heures de jeu. Hein. Et en plus, il y a des longueurs. Le problème, c'est que quand Inside, grosso modo, il suffit d'une séquence, on va dire, de 10 minutes de gameplay dans la forêt avec où il faut éviter les gens qui le pourchassent et tout ça, lui il allonge la sauce, c'est-à-dire que le nombre de fois où il va falloir se cacher d'un monstre pour l'éviter et tout ça, c'est un peu long, et puis dès qu'il trouve une idée de gameplay, il la répète comme ça dans plusieurs niveaux, donc c'est un peu délayé.
Y a-t-il un marché pour le like dans cette catégorie? C'est ça la question. Tu vois, quand tu as un titre aussi référence écrasant, entre guillemets, qui est une telle. Tu vois, c'est un monument. Ouais. Est-ce qu'il y a de la place pour des likes
pour je ne sais pas. Il y a de la place pour faire un jeu à traveling, quoi. Ce genre qui est maîtrisé par Playdead à la perfection. Je pense qu'il y a de la place pour profiter comme ça de ce type de jeu où on suit un personnage qui reste au centre de l'écran et qui va parcourir des décors et raconter comme ça une histoire. Il y a de la place, mais il faut pas trop jouer à Inside avant, quoi. Il faut se détacher un peu de l'original parce que là c'est problématique. Après, ce jeu a fait partie de la line-up Apple Arcade, donc ça a été un jeu par abonnement. Donc peut-être que il y avait moins de challenge. Enfin, je sais pas quelle est leur commande, commande on a passé à Stella. Peut-être qu'on leur a dit, regardez Inside, faites pareil.
C'est possible.
Mais
il fallait une case Inside sur le line-up peut-être au lancement, c'est possible.
C'est assez rare comme ça que j'ai été confronté à un jeu où il y avait ce côté quasi plagiat qui était tout le temps, le côté un peu approximatif, comme si c'était une sorte de plagiat Android, tu sais, tous les jeux sur Android qui plagient les jeux à succès.
C'est
ça qui est étonnant en fait, c'est qu'ils soient présents sur l'Apple Arcade qui est censé être normalement un truc un peu sélectif où t'as pas place pour des jeux
de seconde catégorie
des clones quoi.
C'est un clone que quand tu regardes dans les détails, hein, parce que évidemment les décors sont pas les mêmes, l'ambiance n'est pas la même. Il y a quand même quelques fulgurances visuelles qui tiennent même jusqu'à la fin. Il y a quelques fulgurances visuelles qui sont intéressantes. Sauf que c'est tellement déconnecté d'un pseudo scénario pour se faire censé comprendre alors qu'on comprend rien. Mais on sent qu'il y a un vrai travail original. Le truc, c'est que pour les gens qui ont joué comme moi deux ou trois fois à Inside, les phases c'est visible, quoi. C'est transparent.
Canada Dry, on appelle ça. C'est du Canada Dry. Mais du coup, préférer l'original, clairement.
Rejouer à Inside. C'est mon seul conseil. Franchement, j'ai refait la séquence où il faut faire les mêmes gestes que les zombies, là. Enfin, il y avait vraiment tellement et puis la fin. Enfin, il y a tellement de fulgurances dans ce jeu-là c'est impressionnant. Bref, ça s'appelle Stella. Si vous voulez essayer, c'est aux alentours de 17€. C'est disponible sur Steam. Voilà, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Marius?
Comme je disais plus tôt, j'ai vu plein de trucs nuls, mais ça a été sauvé par un film que j'ai vu hier soir et qui sera disponible en VOD de vendredi à dimanche sur le site de Carlotta. C'est le très beau Judo de Junito. C'est un film de 2004 qui a été remasterisé et qui est un hommage, on va dire, au grand judo d'Akira Kurosawa. En gros, c'est de la baston un peu bête et méchante de loin. Dans Hong Kong, mais en fait c'est un très beau film d'action qui est percé de scènes d'humour mais vraiment très très belles et d'une grande tendresse. C'est vraiment un très joli film sur un judoka qui veut affronter des mecs toujours plus forts et une fille qui rêve d'être une idole et de percer dans la variété à Hong Kong et un ancien champion de judo qui est devenu accro au jeu et alcoolo au dernier degré. C'est super beau, c'est comme toujours éclairé de merveilleuses manières. C'est un très beau film.
Et tu as dit qu'il serait disponible où ça?
C'est disponible sur le vidéoclub du site de Carlotta, qui est un éditeur. Donc c'est de vendredi à dimanche et après bah, ça redisparaîtra jusqu'à une sortie en salle quand ça sera possible.
Plus tard, ouais.
D'accord. Voilà. Donc, ce podcast étant diffusé le vendredi, vous avez 3 jours pour regarder sur le site de Carlotta. Patrick.
Moi, je poursuis mon. Vous savez, je comble des manquements du cinéma américain des années 70 en ce moment. Voilà, c'est compris, comme ça. Et là, j'ai vu ces derniers jours The Driver de Walter Hill. Walter Hill, c'est un réalisateur américain ultra connu, 48 heures, double détente, enfin bref, beaucoup de films d'action des années 80. Donc là, c'est un film de 78 avec Ryan O'Neill, c'était l'acteur de Love Story, entre autres, Bruce Dern et Isabelle Adjani. Alors, on suit Ryan O'Neill qui joue un pilote de bagnole surdoué et qui va être appelé pour participer à un casse, pour venir chercher les mecs et... C'est un scénario, mais on a déjà vu ça, mais oui, parce que je pense que c'est un film matriciel. Moi, j'étais halluciné de voir le. Alors, j'ai retrouvé plein de choses qui ont été reprises par la suite. Hein. Driver, le jeu, évidemment. T'as quasiment. Rappelez-vous Driver en 99 sur PlayStation, cette séquence d'introduction où il fallait sortir d'un garage en faisant des figures quasiment impossibles. C'était une horreur. Mais il y a la scène dans le film, en fait. Elle est là, en fait, où le type, pour faire ses preuves, bousille une Mercedes en faisant des trucs de fou. Alors, évidemment, GTA, il s'est complètement infusé là-dedans. Le film Drive. Le film Drive qui a quelques années maintenant a complètement c'est complètement inspiré de The Driver hein, avec je ne me rappelle plus le nom de l'acteur qui a le même jeu assez comment dire enfermé Ryan O'Neill il est très enfermé il a un jeu très particulier dans The Driver et en tout cas voilà, j'étais assez impressionné du côté de tout ce qui a pu inspirer ce film je pense qu'il a vraiment il a infusé pas mal d'imagerie que ce soit du jeu vidéo du cinéma derrière et je l'avais complètement loupé donc voilà il est passé sur le câble il y a quelques jours, donc je l'ai vu. Et voilà, The Driver de Walter Hill, je crois qu'il est sorti en vidéo il n'y a pas très très longtemps, il doit toujours être dispo, et vraiment, vraiment pas mal, une très bonne surprise.
Ouais, c'est vraiment un des films matriciels
complètement,
du ouais. Genre de film de bagnole avec Macadam à deux voix, qui est de quelques années avant de Monty Hellman.
Ouais.
C'est marrant parce que je me suis tapé dans les gros nanars que j'ai vus pour le plaisir. Je me suis tapé plusieurs films de Fast and Furious.
Oh là là, oh là là, ah oui.
Quand on m'avait dit du bien en disant, mais si, tu verras machin. C'est atroce. Franchement, voyez plutôt Driver, voyez Macadam à deux voix.
Ouais.
Mais c'est vraiment un truc de gogol.
Pour ma part, entre deux relectures de tribunes, oui, parce que je m'occupe des tribunes et de la rubrique idées de Libération.fr. Non, mais c'est un travail assez dingo hein, en ce moment, parce que évidemment, vous imaginez que c'est assez monothématique. Donc, mais ça permet de brasser entre les urbanistes, les écolos, les machins. Enfin voilà, c'est vraiment un boulot assez passionnant comme ça d'interagir avec tous les gens qui proposent des tribunes à Libération. Il y en a plein en ce moment, donc je lis beaucoup de choses, on n'en publie pas beaucoup par rapport à ce qu'on reçoit. Mais je voulais signaler quand même, parce que je vous en avais parlé il y a quelques mois, quand je travaillais sur le sujet, on a enfin sorti Bulbe 2, la revue numérique du service ID de Libération. Donc c'est une revue spécialement, enfin dédiée à la lecture sur smartphone. Et donc où j'ai commis un très gros ensemble sur l'informatique quantique. Donc il y a beaucoup à lire avec notamment une interview de Serge Haroche, donc notre prix Nobel de physique français. À cette occasion-là, j'ai rencontré Alain Aspect, qui est aussi un très très grand physicien, qui a fait une expérience absolument fondamentale pour la physique quantique à la fin des années 80. Bref, ça a été voilà, tout ça vous pouvez le lire dans Bulbe 2 et l'URL est assez simple, c'est bulbe.libération.fr et plutôt sur smartphone parce que c'est fait pour. Voilà, écoutez, je me permets quand même, parce que je l'avais pas fait en début d'émission, de faire une petite remarque sur la durée de cette émission, qui est beaucoup plus raisonnable que les deux émissions précédentes. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être très tristes, mais c'est pas grave. Ça permet de faire quelque chose de plus raisonnable.
On a un beau programme pour la semaine prochaine.
On a un beau programme. Ah oui, on a déjà des choses pour la semaine prochaine. Je voulais préciser que je ne sais pas encore où en sera la qualité sonore de cet épisode. Mon micro m'a lâché juste avant l'enregistrement de l'émission. Donc j'ai dû me me retourner vers un micro de fortune, le seul que j'avais à ma disposition, c'était un PlayStation Eye. Oui, monsieur. Oui, messieurs, dames. C'est vraiment... C'était... j'ai donc un micro, j'ai donc une... la sorte de webcam PS3 qui me sert de micro. Donc, je ne sais absolument pas au moment où on enregistre ce que ça donnera en niveau qualité sonore. Mais on va faire avec. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à tous les deux pour cet enregistrement.
Merci.
Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Bye bye.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.